I've heard it said that people come into our lives for a reason.
Voilà le plan. J'ai pas de plan.
Moi, j'en ai un.
Oh, sois loué.
T'es pas au courant? Je suis la méchante sorcière de l'Ouest.
Il est très exactement 7h06. Il vous reste donc 8h54 pour méditer sur vos fautes. Pas de questions?
C'est la fin du cinéma.
Non, mais je crois que le cinéma existera toujours.
Vous ne seriez pas dans le cinéma, vous?
Breakfast.
Ciné.
Club.
Breakfast Ciné Club.
Ose soit loué, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes confortablement installés dans le bien-être de vous-même parce que c'est important, bienvenue dans le BCC, le Breakfast Ciné Club. On retourne à Ose pour parler de Weekend Partie 2, la fin du diptyque réalisé par John M. Chu avec Ariana Grande, Cynthia Erivo, Michelle Yeoh, Jeff Goldblum et un casting 5 étoiles.
Hey, crack.
Ouais, okay. C'est le cours de danse de tout à l'heure, là je suis un peu...
J'aimerais que tu nous présentes de la même manière, s'il te plaît.
Ah ouais. Ah bah écoute, je vais essayer de faire ça. Je vous le dis, donc voilà, l'avant-première au Grand Rex, c'était juste de la folie pure. Je n'ai jamais entendu autant de bruit dans cette salle. On va en parler, bien évidemment. On va parler de ce film, de ses enjeux, de ce qu'il raconte sur l'amitié, le pouvoir, et sur, bien sûr, la désillusion et même un peu de politique.
Ouais, ouais, complètement.
Eh bah écoute, c'est un très très beau programme. Je suis accompagné de John Hume.
C'est pas mal. C'est pas mal.
Et de Maria Palot.
Maria Palot.
J'aime bien. J'ai voulu rajouter un peu de trucs. Donc voilà, donc j'espère que vous allez bien, les copains.
Mais ça oui, va ça bien. Va très bien.
Nickel. Vous êtes chaud pour parler un petit peu de ce
hyper
film
chaud.
Très content de
hyper
parler de ce
chaud.
Film.
Et qu'est-ce que t'en as pensé pour le coup, toi, un petit peu, en trois mots?
Ouais. Attends. Oh là là. Ambitieux.
Ouais.
Profond.
Ouais.
Et enlevé.
Très bien.
Jonathan Bailey. Chemise.
Ok.
Voilà.
Okay.
C'est pas mal, c'est le Breakfast Ciné Club. On est parti. Alors, un peu plus que trois mots maintenant.
Ouais, voilà, je vais si j'ose,
si j'ose dire,
je vais développer mon avis, n'est-ce pas? Non, moi, j'ai passé un très, très bon moment devant ce film. J'ai trouvé que dans l'ensemble, c'était un film très fluide, très libre. J'ai beaucoup aimé Wicked première partie, partie 1. Mais j'ai trouvé que ce nouveau film, une fois débarrassé du besoin de mettre en place, en fait, toute l'histoire qui était nécessaire dans le premier opus, les enjeux, les personnages, tout le cahier des charges qui devait être respecté. Là, j'étais devant un film qui était plus satisfaisant, en tout cas pour moi, en tant que spectateur, mais qui se présentait comme un aboutissement, en fait, du premier. Je trouve que les scènes sont présentées comme des tableaux qui s'enchaînent vraiment bien, je trouve, que les personnages sont écrits de manière très, très directe, plus spontanée, ce qui fait que les chansons, quand elles apparaissent, semblent très en alchimie avec l'ensemble du film. Et puis au niveau de la direction artistique, le jeu des acteurs, des actrices, du casting, la réalisation de John M. Chu et tout le reste, on n'est pas dépaysé, hein, on retrouve vraiment les mêmes marqueurs que sur Wicked Partie 1. Mais il y a une dimension, je trouve, plus dramatique à l'ensemble. Je pense qu'on va en parler également au travers de vos avis. Et si je devais donner une comparaison, c'est un peu comme si le film m'évoquait les premiers Harry Potter, tu vois, tandis que là, on est dans quelque chose qui se rapprochait plus d'une tragédie, mais l'évolution de la saga Harry Potter, même si c'est sur plus de films, me rappelait un peu cet aspect-là. Et puis, il y a des éléments qui m'évoquent, effectivement, comme je disais, un cinéma de genre un peu plus adulte. Enfin, quand je dis plus adulte, attendez,
oui,
c'est pas exactement ça. Il y a des transformations corporelles, il y a des scènes qui évoquent un petit peu le cinéma d'épouvante classique hollywoodien. Alors, ça reste évidemment un film fantastique tout public,
oui.
Mais je trouve qu'il y a des aspects un peu inquiétants. On on va dire, un peu comme les films fantastiques qui étaient destinés aux enfants et aux jeunes publics dans les années 80, avec de la musique aussi. D'ailleurs, je pense à Labyrinthe,
Jumanji, ça fait peur, quoi.
Plus vieux, Labyrinthe avec David Bowie, qui était un vrai film musical avec David Bowie qui avait écrit les chansons, mais qui avait un côté un peu inquiétant comme ça, et très palpable aussi dans ses décors. Et cet aspect plus sombre du film, il coïncide avec l'arrivée de la storyline du Magicien d'Oz classique. On en a pas mal parlé avec Terry à la sortie de la projection, qu'on connaît, hein, avec la maison de Dorothy qui s'écrase sur un personnage. Je vais pas vous spoiler si vous connaissez pas. Et donc, sur le tout dernier acte du film, on suit en parallèle la trame narrative de Dorothy, du lion peureux, de l'épouvantail et de l'homme de fer. Moi, j'avais peur que toute cette narration parallèle, justement, elle arrive un petit peu comme un cheveu sur la soupe. Ouais. Mais finalement, c'est très fluide.
Ça se marie vachement bien.
Ouais,
tout se marie très très bien. Et ça colle au récit, ça apporte une ampleur supplémentaire à ce dernier acte. Et puis, parce qu'on sait que la quête de Dorothy, elle est censée l'amener jusqu'à la méchante sorcière de l'Ouest. Hein, donc, on se dit, est-ce qu'ils vont aller jusque-là ? Donc voilà, moi je trouve qu'on a un film de grande ampleur, du vrai grand spectacle qui se fout pas de la gueule de son public et qui a le bon goût également de ne pas s'éterniser. Donc c'est un vrai succès à mes yeux, voilà.
Alors moi j'ai vu le film au Grand Rex le soir de l'avant-première.
Voilà. J'étais là aussi.
Incroyable.
Extraordinaire.
Incroyable. Avant même le début du film, ça criait à un niveau de décibels jamais entendu.
C'est fou
jamais
que vous ayez encore des tympans pour en parler avec nous.
Une folie.
C'est fou.
Parce que moi, j'étais dans le perche et j'ai tout entendu. Donc,
vraiment fou parce qu'on a quand même eu. Il y a eu des guidelines, moi, qui m'avaient été un petit peu envoyé en mode des personnes du Rex. Ils m'ont dit, Terry, prévois les boules qui est-ce, quoi. Ça risque de crier très, très fort. Ils avaient déjà un peu anticipé quand même.
C'était une folie furieuse. Au début, j'étais un peu en retrait, comme une sorte d'observatrice un peu distante du phénomène. Alors, j'étais habillée en meringue rose avec des papillons collés sur la face.
Une certaine idée de la distance avec Marie.
Une certaine idée de la distance.
J'ai mis des sequins, j'ai mis des paillettes, mais
j'étais
joué en cosplay, mais avec un peu de distance.
Et parce que je me suis dit, c'est peut-être la seule avant-première où je pourrais vraiment être moi. Et c'est vraiment l'idée du film aussi.
C'est de
s'imprégner de ce qu'on a envie d'être. Complètement. Jusqu'à ce que l'homme, en fait, le plus sexy du monde apparaisse sur scène. Et là, je pense que ça y est, j'étais vraiment dans l'ambiance.
Oui, tu étais.
J'ai hurlé, comme tout le monde, je me suis transformée en monstre. Il m'en fallait pas plus pour plonger dans le monde d'Oz. Alors j'avais prévu des mouchoirs, évidemment. Je savais que j'allais potentiellement chialer toutes les larmes de mon corps, ce qui était déjà le cas dans le premier film. Et ça n'a pas manqué. J'ai même dû en distribuer à mes voisins, hein, il y avait une sorte de solidarité. Dans le premier volet, il y avait la fameuse séquence Defying Gravity avec Glinda et Elphaba qui nous offraient un moment hyper intime, hyper... dans ce deuxième volet, c'est pareil, hein, on est dans l'alchimie, on est dans le truc, ils m'ont eu totalement. J'ai hyper hâte de voir le making-of, de voir comment ils ont construit ces scènes. Parce qu'au-delà de la performance, le film, il vient aussi, comme tu le disais, Joe, boucler la boucle. Plusieurs fois, je me suis retrouvée bouche bée à me dire « Ah d'accord, mais c'est pour ça qu'on avait vu ça, etc. » Donc c'est hyper satisfaisant, tu vois, de ramasser tout ça. Et je trouve qu'effectivement, comme tu le disais, on est dans un film plus adulte, plus sombre. Il est tout public, mais ça m'a, ça m'a trigger quelques petits trucs, un peu d'angoisse et tout. Ouais. J'ai bien aimé être challengé à ce niveau-là.
Il y a plus de sous-texte, en fait, j'ai l'impression. C'est-à-dire que ça reste un divertissement familial, mais quand il va en tant qu'adulte et que t'accompagnes peut-être un public plus jeune, il y a des choses qui vont te parler, que les plus jeunes ne vont pas forcément capter, mais qui sont satisfaisants pour un public adulte aussi.
Et puis, il n'y en a plus droit qu'à un seul petit bisou. Hein, on a eu droit à plus, là aussi, j'ai eu.
Elle était prête pour ça, Marie.
Ça a crié très très fort. Je pense que je n'ai jamais vu une telle ambiance au Grand Rex. C'était électrique du début à la fin, et je pense que tout ce qu'on se dit, en fait, c'est que Wicked Partie 2, il est vraiment réussi. C'est un film qui ose être spectaculaire sans jamais être creux. John M. Chu a retrouvé ce qu'on aimait déjà dans le premier, et il a gagné en aisance. Les transitions entre les scènes, elles sont fluides. Il y a donc toute la partie musicale s'intègre naturellement au récit, et il y a une vraie dynamique émotionnelle à travers tout le film. Donc j'ai aussi vraiment beaucoup aimé cette noirceur qui s'installe peu à peu. On raconte, certes, on est sur un conte, mais il y a des moments un peu flippants, tu vois. Et je suis sensible à ce genre de choses.
T'as un seuil de tolérance qui est très bas.
Très bas. D'accord, mais des transformations.
Toi, dès qu'il y a la tête en bois de hausse, tu fais
je suis pas bien. Alors qu'il y a un moment qui est censé être plutôt cool, et on voit la tête qui arrive. Je suis genre, arrête de me regarder, je suis pas bien. Donc voilà, il y a des passages qui sont un peu, comme tu le disais, voilà, le film fantastique des années 80. Ouais. Et ça fonctionne hyper bien. Ça donne du relief dans ce monde. Ça donne un petit peu d'âme également à ce monde d'Oz. Le duo Cynthia Erivo, Ariana Grande, lui, bah, il marche à la perfection. Hein. On sent de la complicité, il y a de la douleur, il y a de la fêlure. Et ça rend cette histoire d'amitié encore plus forte, encore plus mature et plus profonde finalement.
Tu es incapable de résister.
Qui le pourrait ?
Tu sais qui.
Je vois une maison. Une maison qui vole dans le ciel. Je m'en vais voir le magicien.
Apportez-moi le balai de la méchante sorcière de l'Ouest. Le balai sera la preuve de son trépas.
Breakfast Ciné Club.
T'as, c'est fou parce que je l'ai déjà vu deux fois ce film et là ce petit extrait je me suis
t'as
dit
mis
oh
les frissons, là,
j'y retourne, j'y retourne. Non, vraiment du grand spectacle, mais Wicked partie 2 reste sincère. Les personnages, on n'est pas sur le méchant qui doit être méchant, au contraire il y a vraiment de la nuance un petit peu partout et j'ai trouvé ça vraiment ultra intéressant. On a une vraie fin et pas juste une suite pour faire joli. C'est un film qui parle de ce que ça coûte de grandir et de choisir son camp et aussi de dire au revoir. John M. Chu, il a j'ai réussi à gérer ça avec un équilibre parfait. C'est lumineux, tragique, mais toujours plein de cœur. Il y a un moment qui est franchement incroyable. Il y a un plan séquence. Je pense que vous voyez de quoi je parle. Oui. On ne va pas spoiler, mais il se passe quelque chose d'absolument fou où en fait on a la caméra qui traverse des miroirs sans coupure.
Alors c'est un plan séquence aidé technologiquement, mais qui est d'une fluidité,
éblouissante, d'une prouesse technique. Ouais. Moi, ça m'a vraiment vraiment touché. Et je pense que toutes les personnes qui aiment un petit peu ça seront aussi un petit peu affectées. Et je pense que ça m'aime un petit peu comme si ce film, l'aspect technique, va chercher un petit peu la magie qu'on peut retrouver dans le cinéma. Et donc ça m'a vraiment vraiment fait plaisir parce que c'est pas juste un effet de style, ça raconte quelque chose. On entre vraiment dans la tête du personnage et c'est vraiment ce genre de choses que j'aime. C'est pour ça que j'aime le cinéma. Et donc là-dessus, alors Wicked partie 2, il renoue complètement avec ce qu'on avait adoré sur le premier, du old school, du sincère, de l'émerveillement. Ouais. C'est très 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 stylé. Jeff Goldblum.
Il a son moment là.
Ah, il a un moment,
il a son moment
que j'ai vraiment 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 beaucoup aimé.
Sachant que Jeff Goldblum, lui, il est chanteur et pianiste de jazz à côté et tout. Et pendant tout le premier film, je me suis dit, le mec, il doit attendre le moment où on va lui donner
son. Comme nous, on était en train d'attendre. On attendait son moment.
Ça fonctionne hyper bien.
Et là, il arrive. Et là, je suis tellement content. C'est jazzy, c'est élégant et en même temps, c'est très Broadway. Et donc, ça fonctionne, ça marche avec lui. Il est Oz. Voilà, ça fonctionne totalement. D'ailleurs, je précise que je pense pas que ce soit primordial, mais ça peut quand même être un petit kiff de se revoir ou de découvrir le film Magicien d'Oz avant.
Ouais.
Parce que voilà, il y a quand même les deux histoires, comme on disait, qui se marient bien, qui se répondent littéralement.
Après, donc, dirais même. Hein. Après.
Ou même, après. Oui,
parce que d'avoir le point de vue de la méchante sorcière de l'Ouest, entre guillemets, et tu vois.
Oui, bien vu.
Tu vois, de voir arriver Dorothy qu'on ne voit jamais, mais ça, on s'en reparlera plus tard. Je trouve qu'il y a un truc hyper mystérieux. Et de le voir après, de se dire, ah d'accord, donc elle, c'était sa quête, elle, c'était machin. Ouais.
Je suis totalement d'accord. On peut parler un petit peu du casting avec un certain avec un certain Jonathan Bailey, élu Sexiest Man Alive 2025.
Pardon, hein.
Il sait bien parce qu'il a été élu Sexiest Man Alive vraiment dans le bon timing,
mais le
par
timing
rapport, par rapport à l'arrivée du film.
J'étais là depuis le début et je l'ai toujours trouvé sexy, ok.
Mais écoute, on se rappelle quand même qu'à un moment tu nous as dit qu'il méritait de finir dans un musée, ce monsieur. Tu l'as dit ici,
c'est vrai,
dans cette pièce.
C'est vrai, c'était
donc
pour
comme quoi,
World.
Exactement, comme quoi tu avais déjà pressenti, pré-shot cette élection. Bien sûr, voilà, Michelle Yeoh, ça fonctionne super bien. Jeff Goldblum, voilà, ils imposent une classe absolue. Cynthia et Ariana Grande, c'est autre chose. Elles ont une intensité qui prend vraiment tout l'écran. Ouais. Quand elles sont face à la caméra, bah, tu sens que c'est pas juste une performance, il y a une véritable connexion qui se ressent.
Qu'elles sont amies, qu'elles s'aiment. Quoi.
C'est-à-dire, elles s'aiment et tu le vois même dans les promos, tu le vois un petit peu partout. Et donc, c'est quelque chose qu'on aime voir également au cinéma. Bref, Wicked Partie 2, pour moi, c'est du grand spectacle, mais ça, sans perdre le côté humain. Donc, ça reste quand même assez terre à terre, bien qu'on soit dans un monde fantastique où des gens volent. Mais c'est sincère, c'est élégant et c'est ce que j'attendais de cette vraie fin.
Mais c'est intéressant que tu parles du côté terre à terre, parce que moi, un des trucs qui m'a particulièrement marqué dans ce film, dont on avait déjà un premier aperçu dans le premier volet, mais qui se trouve est beaucoup plus exploité là, c'est la portée politique de l'histoire. Dans Wicked, on sentait que derrière la façade du magicien d'Oz et du monde d'Oz se cachait une potentielle petite dictature ou un empire tyrannique basé sur un gros mensonge. Mais dans ce nouveau film, on voit vraiment le monde de Oz devenir un état policier, où le peuple est contrôlé par quoi ? Par la peur, évidemment. Une peur qui est entretenue de manière mensongère par un petit nombre de dirigeants. Et on se retrouve face à deux types de personnages. T'en parlais tout à l'heure. Ceux qui vont se laisser aveugler par la propagande et ceux qui vont entrer en résistance. Forcément, tout ça fait pas mal écho à l'actualité mondiale. Et ce qui est intéressant, c'est que John M. Chu décide, au travers de cette histoire, de ne pas traiter le sujet de manière si manichéenne que ça. On a des personnages, en l'occurrence des animaux, qui vont devenir des réfugiés, qui vont tenter de fuir leur pays en passant par des voies souterraines clandestines. Je ne vais pas vous faire un dessin, mais bon, devant cette scène, ce n'était pas très difficile de laisser des parallèles avec l'actualité. On a le personnage d'Elphaba qui va tenter de persuader, de convaincre le peuple animal de rester à Oz, mais des arguments qui vont rapidement se heurter à la réalité des choses. Face à elle, il y a donc d'une part le magicien d'Oz et Madame Morrible, qui sont les représentants du gouvernement oppresseur. Et on a deux personnages qui sont entre les deux. La sœur d'Elphaba, que l'aigreur et la frustration a poussé à se ranger du côté de l'oppresseur, et Glinda, qui quant à elle est totalement aveuglée par, pas par Oz, par une construction qu'elle s'est faite depuis l'enfance et qui l'empêche en fait de voir complètement ce qui se passe, en tout cas de se l'avouer, de se l'admettre.
C'est la pilule bleue et la pilule rouge.
Exactement.
C'est vraiment.
Mais c'est comme si elle, elle avait pris un petit peu des deux justement.
Oui, c'est ça.
Et c'est, je trouve que son personnage est hyper intéressant de ce point de vue-là aussi. Je trouve que le personnage de Glinda, il est hyper bien écrit dans ce film, parce que derrière la façade, derrière les couleurs roses, il y a l'imminence de l'évidence qui va s'imposer à elle. Et nous, en tant que spectateurs, on dit, il y a un moment, il va y avoir un basculement. Et pour moi, en fait, tout le sel de ce film, il était construit sur quand est-ce que Glinda va basculer, quand est-ce qu'elle
son
va voir la lumière.
Quel moment
parce qu'elle fait tout, elle, pour retarder ce moment où elle va devoir faire face à ses propres contradictions. Mm-hmm. Donc voilà, je trouve que dans un film à grand spectacle comme celui-ci, un film familial, un film fantastique, nous mettre face à des enjeux politiques pareils, sans les surligner non plus, et de les confronter à des personnages qui représentent une vraie diversité de positionnement par rapport à une pression tyrannique, le faire sans que ça paraisse trop en surface, bah, je trouve que c'est assez admirable pour ce genre de spectacle. Donc voilà, alors oui, il y a les décors, il y a les chansons, il y a tout ce que vous voulez, il y a l'euphorie qui est créée autour du film, mais il y a aussi tout ça, et c'est ce qui donne, je trouve, à ce film sa densité, qui fait que c'est probablement un film qui restera. Enfin, moi je repense aux films fantastiques pour jeune public que j'ai vu dans les années 80 et 90 et qui restent encore avec moi aujourd'hui. C'est justement des films qui s'en tenaient pas juste à l'histoire de surface, et je pense que le jeune public qui va voir ce film aujourd'hui, dans 20 ans, dans 30 ans, il aura une signification pour eux, en fait. Et ça, et puis, je pense que c'est un film qui va durer dans le temps. Deux films qui vont durer dans le temps. Et j'ai hâte de voir les relectures qu'on en aura plus tard avec le recul, parce que je pense que c'est un film qui raconte quand même quelque chose de son époque.
Qui raconte quelque chose et qui, en même temps, je pense, va également marquer toute une génération. Je pense qu'il y a une véritable communauté aussi qui s'est créée autour. Et on pouvait le voir différents rassemblements, et je pense que peut-être que je vais un peu trop loin, mais peut-être que dans des conventions, on va avoir pas mal de
je pense pas que t'ailles très très loin trucs,
mais je pense qu'il y a quelque chose qui est en train de se faire autour de cet univers, et j'ai hâte de voir ce que ça va donner.
Et puis encore une fois, il est porté par le duo Erivo Grande, qui toutes les deux, je trouve, incarnent parfaitement ce miroir de l'actualité.
Tu te demandes comment elles vont faire pour tourner des films sans l'une sans l'autre maintenant, quoi.
Tellement
elles sont
elles
doivent avoir le blues post-tournage, laisse tomber.
C'est clair. Bah alors justement, dans cette partie 2, il y a des séquences tragiques dans le film, très très sombres, j'en dirai pas plus, mais j'étais contente justement du parti pris de la réalisation. On est, comme on a dit, dans une atmosphère beaucoup plus épaisse, beaucoup plus palpable. Alors niveau musique, on retrouve une parfaite cohérence entre le 1 et le 2. Ouais. Par exemple, les paroles « Unlimited, we are unlimited » devient « I'm limited ». Seigneur, j'ai chialé, mais comme jamais. Passons. Le premier volet, du coup, installe les décisions, mais le deuxième, il dévoile les conséquences de ces décisions. Ouais. C'est un parti pris du compositeur Stephen Schwartz qui a poussé pour que ce film, justement, ait lieu. Il propose une musique qui illustre parfaitement cette amitié profonde, sans oublier que le réalisateur John M. Chu a fait en sorte de faire chanter et performer ses comédiens en live. Ça se sent. On sent qu'il y a quelque chose qui est délivré sur le plateau. C'est assez fort. Au niveau de la réale aussi, j'ai plus ressenti ce côté presque théâtre. Je m'attendais à un moment à avoir des... Bah, d'ailleurs, l'ouverture du film, la partie 2, il y a un rideau, un peu comme aussi le Magicien d'Oz. Et John M. Chu l'a affirmé en interview, il pensait les séquences comme des tableaux avec des entrées, des sorties marquées, un geste hyper lisible. Il y a notamment deux scènes en particulier qui m'ont marqué sans trop entrer dans les détails. Une où Glinda et Elphaba se retrouvent et ça part en pugilat, presque parodique. Ouais. Les personnages apparaissent d'un coup, vraiment hip-hop. Et ça m'a vraiment fait penser à la Commedia dell'arte, en fait, avec des outils de cinéma. Ouais. Et on a la même grammaire scénique avec une réinterprétation cinématographique du fameux Lazzo de la Commedia dell'arte où ça se tape, ça tombe, ça roule, il y a du gag, du chaos scénique. Et on ressent ces effets théâtraux aussi dans la dernière partie du film. Ouais. Parce que tu disais, ça donne une profondeur au tragique qui est hyper esthétique, mais encore plus grand. L'héroïne du Magicien d'Oz qui entre finalement dans l'histoire jusqu'à sa rencontre ou pas, parce qu'on sait que normalement c'est sa quête. Elle doit rencontrer...
Dorothy, tu parles.
Exactement, elle doit rencontrer la méchante sorcière de l'Ouest. C'est au summum de ce que le théâtre peut offrir. Le spectateur cherche sans cesse le visage de Dorothy, mais en fait, c'est pas son histoire.
Exactement.
Et plusieurs fois, je me dis, mais elle va se tourner ou, tu vois.
Ça aurait presque été dommage, du coup. Tu vois.
Et c'est hyper dommage.
Parce que je pense que si elle avait été castée, c'est-à-dire si on avait le visage d'une actrice... plus ou moins connu, je pense que ça aurait même menacé de briser l'équilibre qu'il y a entre... Parce que là, le casting est très fort. Donc, je trouvais que c'était la bonne idée, effectivement, de faire ça. Mais tu le disais, il y a aussi des artifices qui ramènent au balbutiement du cinéma qui sont utilisés avec des jeux d'ombre et tout. On n'en dit pas plus, mais ça aussi, ça apporte vraiment un côté palpable à l'ensemble du film qui marche vraiment.
J'ai adoré, justement. Et c'est pas la scène de Dorothy, c'est vraiment la scène jusqu'au bout de la méchante sorcière de l'Ouest, hein. Et le dénouement, il est à l'image de ce diptyque. Tu le disais, Terry, c'est une vraie fin. C'est pas juste une suite pour une suite. C'est poétique, c'est romantique. Et surtout, je me suis réconciliée avec Glinda la bonne. Mais alors, vraiment.
Ah, ça, totalement, totalement.
Ceci est l'œuvre de la méchante sorcière! Qu'est-ce que tu m'as fait?
Pense à ce qu'on pourrait faire, toutes les deux.
C'était vraiment absolument génial. Ouais. Question traditionnelle, les copains, on va voir ce film avec qui?
Avec des personnes amoureuses de Jonathan Lee.
on leur fait plaisir, un excellent
moment. Non, moi je propose d'aller voir ce film en famille et de débriefer après pour avoir justement les différents... capter ce qu'ont ressenti les différentes générations devant ce film. Moi, ça m'intéresse de savoir que, parce que nous on en parle entre nous, mais avoir le retour de mes enfants par exemple qui ont 6 et 10 ans, je trouve que ça serait intéressant. Vraiment.
Pas mal du tout.
Moi je pense qu'on peut faire vivre ce film au-delà de l'expérience cinématographique, mais même avant d'entrer dans la salle, un peu comme certains films ont créé de l'effet sur les réseaux sociaux, de venir tous en rose, etc. Je pense qu'il y a un vrai truc avec Wicked, de venir comme on a envie de venir. Et faites-le avec vos amis. Moi j'y suis allée avec des gens qui sont extrêmement fans, mais extrêmement fans, et ça pourrait peut-être être la cinquième fois qu'on voit le film et on va chialer de la même manière au même moment. Et ce sera fabuleux.
C'est absolument génial. Je pense aussi qu'il faut y aller avec des amis, avec des fans. Je pense qu'on peut passer un excellent, excellent moment. C'était le Breakfast Ciné Club. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous. Merci à toutes les équipes techniques d'avoir rendu ce podcast possible. On se retrouve... C'est dit, ça a été dit. Voilà. On se retrouve très vite, du coup, pour un nouvel épisode, probablement un peu moins osien, mais tout aussi passionné. C'était donc Wicked Partie 2, une aventure fantastique, un vrai blockbuster de fin d'année et surtout une belle leçon d'amitié. On se retrouve bientôt. D'ici là, regardez le bon film.
Ciao.
Bye.
Breakfast Ciné Club.